C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Roux.
Bonsoir. Contentieux électoral, la Commission électorale nationale indépendante demande à la Cour suprême de justice de corriger ses arrêts confirmant les résultats définitifs des élections législatives du 28 novembre 2011. Comment analyser cette demande de la CENI? Pour en parler, nous recevons comme invité professeur Jacques Joly, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Professeur Joly, bonsoir. Voilà, professeur Joly, vous nous suivez? Voilà, nous allons l'avoir dans un tout petit moment. Professeur Tshibangu Kalala, professeur de droit public à l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur Ngondankoy, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vos chers auditeurs et internautes qui êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. Jacquard de Mbandaka, l'Équateur. La CENI a raison de demander à la Haute Cour de revoir les arrêts des contentieux électoraux, surtout pour les circonscriptions annulées par la CENI, car il y a risque de perturber le processus électoral. Emmanuel de Bukavu Kultivu, la CENI cherche seulement à se blanchir de toutes les irrégularités de l'élection du 28 novembre, oubliant que par sa requête, elle tend un piège à la Cour suprême. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Commission électorale nationale indépendante demande à la Cour suprême de justice de corriger ses arrêts confirmant les résultats définitifs des élections législatives du 28 novembre 2011. Tout en reconnaissant le caractère souverain de ces arrêts, le vice-président de la CENI estime que toute œuvre humaine a des imperfections et nécessite une rectification. Il évoque la jurisprudence du contentieux électoral de 2007. Selon Jacques Joly, la loi impose au juge électoral de transmettre à toutes les parties et à la CENI des éléments nécessaires pouvant l'aider à réorganiser ses élections dans certaines circonscriptions où elles ont été annulées. Professeur Jacques Joly, je propose que l'on réécoute un extrait de l'interview que vous avez accordé à Jeff Ngoy à cet effet.
Lorsqu'il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par la Cour, il y a possibilité que la Cour soit saisie pour rectifier les erreurs matérielles dans ces décisions ou en donner l'interprétation qui partie entendue. Donc, il ne s'agit pas d'une innovation, encore moins d'une remise en question des arrêts rendus par la Cour. Il s'agit tout simplement de l'application de la loi électorale. Ce n'est pas la première fois que la Cour aurait été saisie pour rectifier ses erreurs ou interpréter. Il y a sous ce sujet une jurisprudence abondante depuis 2007, l'arrêt des mots ou l'arrêt de Cotolo. Il ne suffit pas de dire que les arrêts de la Cour existent d'une souveraineté absolue. Non, il faut que les arrêts répondent aux prescrits de la loi, notamment la nécessité de leur motivation et la cohérence dans l'ensemble du système. Voilà notre souci. Donc si la Cour dispose d'autres résultats, il faut dire qu'on nous signifie.
Voilà, professeur Jacques Joly, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit, c'est le cas de maître Francine Marguerite Sémété de Kinshasa. Pourquoi la CENI demande-t-elle à la Cour suprême de justice de revoir ses arrêts? Les résultats publiés par la CENI n'étaient-ils pas provisoires et remplis d'imperfections? Où est la raison d'être du mot provisoire? Que la Cour suprême de justice puisse rejeter cette demande car il est non fondé. Jacques Atungé de Bukavu Kultivu, en vertu de quel droit la CENI a-t-elle demandé à la Cour suprême de justice de revoir ses arrêts? Pourtant, juridiquement, les arrêts de la Cour suprême de justice sont exécutoires et par conséquent, leur exécution est immédiate. Nous demandons à la Cour de faire preuve de son indépendance face à cette demande de la CENI. Professeur, l'émission est également pédagogique. Quelles sont les motivations qui ont poussé la CENI à mener cette démarche?
D'abord, je suis désolé de la manière dont vous tirez vos extraits. Je crois qu'un extrait doit toujours être tiré dans son contexte global. La CENI n'a jamais demandé à la Cour, n'est-ce pas, de revoir ces arrêts. Donc, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, que les arrêts de la Cour sont exécutoires et s'imposent à toutes les autorités. La lettre de la CENI, parce qu'il s'agissait d'une lettre, et dont nous déplorons d'ailleurs sa diffusion par voie de presse, parce qu'il s'agissait d'une lettre interinstitutionnelle, accusait réception de l'arrêt 008 relatif à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives. Et comme dans cet arrêt, il y avait énormément d'éléments, notamment qui manquaient, parce que dans cet arrêt, il était question de 482 députés proclamés définitivement, et il restait 18 députés à proclamer, et que nous n'avions pas des éléments, nous n'avons pas été notifiés, signifiés. Nous avons donc demandé à la Cour des éléments supplémentaires pour, n'est-ce pas, éclairer et nous donner le moyen, avons-nous dit, susceptible de nous permettre d'exécuter de manière heureuse l'arrêt de la Cour, conformément aux articles 74 et 75. Dès lors que nous avions à voir ces éléments, nous allions donc pourvoir aux cinq franciès. Mais quand cela nous tienne, notre commentaire qui était fait sur le travail de la Cour, nous ne devions d'ailleurs pas faire de commentaire parce que les arrêts de la Cour, je répète, s'imposent. Nous avons dit que la loi électorale prévoit néanmoins, et ça c'est l'article 74.5, alinéa 4, je crois, qui dit que les juridictions saisies peuvent toutefois, à la requête des partis ou du ministère public, rectifier les erreurs matérielles de leurs décisions ou en donner interprétation toutes les parties entendues. Donc ce n'est pas à la CENI. La CENI ne saisit pas la Cour pour solliciter la correction des erreurs. Ce sont les partis qui peuvent saisir la Cour ou les ministères publics. Et pour asseoir ces prescrits de la loi, nous nous sommes référés à la jurisprudence. Donc il faut remettre les choses dans leur état et rappeler que dans l'esprit de la CENI, il ne s'agit nullement d'un débat ou d'une forme de contestation des polémiques qui n'existe d'ailleurs pas entre la Cour et la CENI.
Merci professeur, et c'est là toute l'importance de votre présence dans cette émission. Professeur, quand vous parlez des éléments que la Cour devrait mettre à la disposition de la CENI, j'ai dit et je le répète, l'émission est très pédagogique. Quels sont ces éléments, professeur?
Mais la Cour a rendu 476 arrêts. Si c'était renseigné, n'est-ce pas, l'arrêt 008. Et parmi ces arrêts, la CENI n'est pas encore saisie de ses arrêts. D'autre part, nous avons saisi la Cour outre des contentieux de résultats, parce que, comme a dit un avocat qui vient d'intervenir, la CENI proclame des résultats provisoires. Nous avons saisi, nous avons transmis à la Cour une décision administrative annulant les élections sur cette circonscription. Et nous attendions que la Cour, n'est-ce pas, puisse seulement prendre acte. Il ne s'agit pas là d'un contentieux électoral. Il s'agit, à la rigueur peut-être, d'un contentieux administratif. Donc nous avons, dans l'arrêt de la Cour, nous n'avons pas vu la Cour rencontrer cette décision. Voilà pourquoi nous avons posé cette question. Mais je crois que les réponses pourront venir lorsque les 476 arrêts nous seront notifiés. En tout état de cause, il faudra savoir que la loi dit que lorsque la Cour annule, et ce sont les articles 75 et 76, les décisions d'annulation des élections ou les décisions de correction matérielle faites par la Cour, ces décisions sont communiquer à la Commission électorale nationale indépendante. Et même les décisions d'annulation doivent être immédiatement signifiées aussi bien à la Commission électorale nationale indépendante et aux partis intéressés. Donc, tout ce que nous demandons, que nous soyons signifiés, qu'on nous communique et que nous puissions faire le travail de complément de 500 sièges.
Merci professeur, on vous garde encore dans cette émission. Professeur Kibangu Kalala, vous êtes professeur de droit public à l'université de Kinshasa. Quelle est déjà votre analyse, à quel niveau vous avez suivi les observations et les réponses du prof Joly?
Oui, merci beaucoup monsieur Néron. Ce que je vous avais dit d'abord, c'est que cette espèce de cacophonie, un peu du désarroi, qu'on constate dans l'opinion publique par rapport à ce qui se passe dans les relations Commission électorale nationale indépendante et la Cour suprême de justice, est un petit peu affligeant. On ne pensait pas qu'on allait encore se retrouver, après le travail de la Cour suprême de justice, avec des propos, avec des réactions dans l'opinion publique qui semblaient être de nature à remettre en cause le travail de la Cour suprême de justice. Mais avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à saluer mes collègues et amis, le professeur Ndjoli, le professeur Nkondankoy, qui vont participer à cette émission avec moi. Maintenant, le premier commentaire que je fais, c'est que je suis d'accord avec le professeur Ndjoli lorsqu'il arrive à remettre un peu les choses au clair, en disant qu'il n'y a pas de problème entre la CENI et la Cour suprême de justice, qui peut soulever des polémiques. Et je suis d'accord également avec lui sur son commentaire concernant l'article 1576. Eh bien, la Cour suprême a l'obligation, et c'est la loi qui le dit, l'article 1576, de notifier ses arrêts, non pas directement à l'Assemblée nationale, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais à la commission électorale. Que ce soit des arrêts pour correction des erreurs matérielles ou les arrêts relatifs à l'annulation des résultats. Et donc, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui est d'abord la principale destinataire de ces arrêts, qui doit revoir maintenant son travail, remettre les dossiers en ordre et les transmettre à l'Assemblée nationale pour validation. Demander si jamais on a pu invalider certains députés et valider d'autres. Bon. Mais il me semble entendre le professeur Ndjoli, et je parle sous son contrôle, que ce travail n'a pas été fait parce qu'il continue à réclamer qu'on vienne le notifier ses arrêts. Mais par ailleurs, je constate que déjà à l'Assemblée nationale, on a déjà validé les mandats de certains députés, pratiquement à l'insu de la commission électorale, qui normalement devait recevoir ces dossiers, donc ces arrêts, mettre les dossiers en bon ordre, les transmettre à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse valider les nouveaux députés dans des bonnes conditions. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, ça c'est le premier commentaire que je fais, c'est à propos de la décision administrative dont parle le professeur Ndjoli. Il semble que le CENI aurait décidé l'annulation des élections dans certaines circonscriptions.
Cette
circonscription électorale. Bon. Alors, si la CENI a décidé d'annuler ces élections, je ne vois pas très bien ce que la Cour suprême de justice devait encore faire dans ce dossier. Parce que la CENI, c'est le pouvoir organisateur des élections. Elle est compétente, et c'est bien prévu à l'article 29 de la loi sur la CENI. Donc c'est elle qui organise les élections, c'est elle qui assure la régularité des élections. S'il y a des problèmes qui se posent, c'est elle qui doit délibérer et décider. Et je constate qu'elle a pris une décision administrative, c'est dans ses compétences, d'annuler les élections et de procéder à la réorganisation des élections. Je ne vois pas très bien ce que la Cour suprême de justice avait encore à faire dans cette affaire. Bon, en tout état de cause, je ne vois pas comment la Cour suprême peut encore donner des conseils à la CENI sur ce qu'elle doit faire à partir du moment où elle-même, en tant que pouvoir organisateur, a constaté qu'il y avait des irrégularités et a procédé à l'annulation des élections et n'a qu'à recommencer les élections. Je ne vois pas très bien ce que la Cour suprême peut faire dans ce cas d'espèce. Voilà le premier commentaire que je fais.
Professeur, dans cette démarche administrative, peut-on dire que la Cour suprême a confondu vitesse et précipitation?
Je ne comprends pas très bien votre question.
La Cour était liée par le temps, il fallait publier les arrêts, c'était dans cet élan-là de précipitation ou de vitesse pour, en voulant gagner le temps, que la procédure a été un peu escamotée.
Mais on ne peut pas chercher à gagner le temps en violation de la loi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la réaction de la CENI. Et donc, la loi est claire, les dispositions des articles 75 et 100 sont claires à ce sujet, il n'y a même pas besoin de les interpréter. Eh bien, quand il y a correction des erreurs matérielles, eh bien, il faut communiquer cette décision-là, cet arrêt-là, à la commission, à la CENI. S'il y a
annulation des élections en tout ou en partie, il faut communiquer cela à la commission électorale et aux intéressés. Mais je ne comprends pas comment la Cour suprême de justice est allée directement transmettre ses résultats à l'Assemblée nationale, qui a procédé déjà à la validation, maintenant en mettant en côté le pouvoir d'organiser des élections, qui est censé détenir les dossiers. Peut-être que nous aurons des précisions tout à l'heure au cours de cette émission, mais ça me paraît surprenant. Je ne comprends pas cette précipitation.
Alors, professeur, l'émission est vraiment pédagogique. En parlant d'erreurs matérielles, on peut avoir un exemple d'une erreur matérielle.
Les erreurs matérielles, c'est... Écoutez, ce qui se passe là. Lorsque la Cour suprême de justice rend ses décisions, elle ne peut pas revenir sur ces décisions-là. Les arrêts sont définitifs. Sauf si on introduit des recours aux arrêts. Mais les recours qui sont recevables dans les cas spectres sont des recours en correction des erreurs matérielles. Probablement qu'on a fait la CENI, par exemple, avait mal calculé. Au lieu de donner à une liste d'un parti politique 1000 voix, la CENI lui a donné 500 voix. Bon, c'est une erreur matérielle. Et donc, la Cour a corrigé cette erreur matérielle. Mais le problème, M. Yung, dans cette affaire, c'est que, en procédant à la correction matérielle, si jamais erreur matérielle, mais ça doit se faire de manière contradictoire. Mais il faut que la CENI, à qui on reproche éventuellement d'avoir commis une erreur matérielle, il faut qu'elle soit là, présente, pour voir sur quel point elle a commis une erreur matérielle. Mais il faut que les partis politiques ou les candidats, soient représentés pour que ce soit de manière contradictoire. Cela a été fait en 2007. On a pu récompter les bulletins ou les procès devant en présence des partis. Comme ça, ça se fait de manière contradictoire et ça évite des suspicions. Mais dans le cas d'espèce, à entendre mon collègue Njoli, vice-président de la CENI, il semble que ça s'est fait en dehors du caractère contradictoire. Et puis, en ce moment-là, la CENI se pose la question de savoir, mais s'il y a eu des erreurs matérielles, mais c'est quel type d'erreurs matérielles il paraît comme le présente. Parce que ça peut être la Cour suprême elle-même qui a commis des erreurs matérielles. Vous comprenez? Alors que si on avait fait cela de manière contradictoire, on aurait évité cela. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un recours en correction des erreurs matérielles. Mais pour faire ce recours-là, il faut que ce soit la CENI, parce que la CENI ne peut pas faire un recours en correction des matériels, mais les partis politiques et leurs candidats, s'ils constatent qu'il y a eu des erreurs, ils peuvent faire un recours pour demander à la Cour suprême de corriger des erreurs matérielles, ou parfois même pour faire un recours en interprétation de l'arrêt. Si on n'arrive pas à bien l'expliciter, on peut faire un recours en interprétation de l'arrêt, mais ça, c'est la Cour suprême peut le faire. Mais pour le faire, il faut que les partis disposent des arrêts, qu'il y ait des motivations. Mais là, je crois que il se pose un problème de la qualité et de l'intégrité de ces arrêts, mais on attend, lorsqu'on les mettra à la disposition du public, on pourra les examiner et voir ce que la Cour suprême a fait exactement.
Merci, professeur. Professeur Paul Gaspard Margoy, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur, la correction de ces erreurs matérielles pourrait-elle avoir des répercussions sur les résultats?
Merci, cher ami, de la question. Et je salue en mon tour également les collègues qui parlent, ainsi que les collègues Joël qui interviennent avec moi dans cette émission. Je crois qu'avant de répondre à cette question, je vais revenir quand même à ce que le collègue a dit avant. Toute la question, c'est de savoir si la CENI est partie à un procès électoral ou non. Parce que si on ne répond pas à cette question, on ne sait pas non plus répondre à la question de savoir si la CENI peut adresser à la Cour suprême de justice une lettre en demande de rectification d'erreurs matérielles, et si effectivement ces erreurs matérielles peuvent être corrigées par un membre de la CENI. Moi je pense que, quel que soit ce qu'on dit à ce propos, on sait très bien que le contentieux électoral c'est un contentieux objectif, c'est un contentieux de droit public, mais en réalité, tel que la procédure se déroule, le contentieux électoral donne l'impression qu'il y a d'un côté un récurrent qui conteste l'élection d'un candidat, et pour le faire, le récurrent conteste non pas directement l'acte posé par le candidat proclamé, parce que le candidat proclamé n'a rien dans tout ça, il conteste en réalité la décision administrative de la CENI proclamant les résultats provisoires des élections. En tant que tel, donc, la CENI est bel et bien partie au procès parce que c'est son acte qui est attaqué devant la juridiction constitutionnelle. Donc, même le candidat qui a été proclamé provisoirement élu, à la limite, il n'est qu'une partie intervenante, une partie intéressée. Parce que toute décision qui pourrait être prise par la Cour sur la décision de la CENI lui porterait grief ou en tout cas lui apporterait d'autres lois s'il faut les solider. Donc, à mon avis, la CENI est bel et bien partie au procès. Et il suffit de voir d'ailleurs l'intitulé des arrêts de la Cour suprême de justice en la matière pour voir son convaincre. Parce qu'on dit toujours en cause tel parti ou tel candidat contre la CENI. Donc, la CENI est bel et bien partie au procès électoral. Et en tant que telle, elle répond bel et bien aux dispositions de l'article 74-15 que les collègues ont invoqué, qui donne le droit aux parties au procès, ainsi qu'au ministère public, de pouvoir saisir la Cour suprême de justice, qui n'est pas d'ailleurs seulement la Cour suprême de justice, toutes les juridictions compétentes en matière électorale, en rectification d'erreurs matérielles de leur décision, ou en interprétation de celles-ci. Donc, c'est tout à fait, à mon humble avis, du droit de la CENI de pouvoir introduire une requête devant la Cour suprême de justice en demande de rectification des erreurs matérielles s'il y en a et ou en interprétation de ces décisions. Le vice-président a pu nous a dit ici que c'était juste une lettre d'accusé de réception de l'arrêt de la Cour suprême de justice, dans laquelle, pourtant, elle formule un certain nombre de demandes auprès de la Cour suprême de justice pour pouvoir rectifier les erreurs, pour pouvoir lui préciser la portée de son arrêt afin qu'elle poursuive sa vision. Donc, de ce point de vue-là, moi, il n'y a aucun doute, la CENI est bel et bien partie au procès, elle est bien compétente pour pouvoir saisir la Cour suprême de justice en rectification d'erreurs matérielles. Maintenant, les conséquences de la décision de la Cour, éventuellement, en ce qui concerne la rectification des erreurs matérielles. La loi le dit. C'est vrai, la Constitution dit, à l'article 168, que les décisions de la Cour constitutionnelle, et ici, la Cour suprême agit comme Cour constitutionnelle, c'est-à-dire en matière électorale, ces décisions, dit la Constitution, ne sont susceptibles d'aucun recours. Quand on dit ne sont susceptibles d'aucun recours, ça veut dire qu'aucun recours organisé par la loi peut être accepté, c'est-à-dire les recours ordinaires ou les recours extraordinaires que l'on connaît de la procédure devant la Cour suprême de justice ou toutes les autres juridictions. Il s'agit principalement de l'appel, de la cassation, qui sont des recours ordinaires, ainsi que d'autres recours extraordinaires comme l'opposition quand on n'a pas été parti au procès, ou même la tierce opposition. Ces genres de recours qui sont organisés par la loi, et notamment la loi portant organisation et compétence judiciaire ou la procédure devant la Cour suprême de justice, ces recours ne sont pas acceptables devant la Cour suprême de justice parce que c'est la juridiction suprême. En revanche, la loi électorale, parce qu'il s'agit également d'une loi, article 74-15, reconnaît bien aux partis et au ministère public le droit de saisir la Cour suprême de justice en rectification de ses erreurs matérielles. Je précise d'ailleurs que la requête dont parle la loi n'a pas de formule magique, n'a pas de formalité particulière. Même l'accusé de réception de la CENI, dans la mesure où elle formule un certain nombre de demandes devant la Cour suprême de justice, peut être considéré comme une requête, parce que la requête est tout simplement une demande écrite adressée à un magistrat, à une juridiction. Donc, là, de ce point de vue-là, je considère que la CENI est tout à fait dans son droit de le faire. Je crois que le vice-président de la CENI n'a pas de scrupules à avoir pour pouvoir exercer les fonctions, les prérogatives que la loi lui reconnaît.
Merci. Professeur, permettez à ce niveau que je vous soumette cette réaction de Pépé Lissoundi de Kisangani en province orientale qui dit « Je pense que la CENI pourrait avoir raison car il y a eu aussi plusieurs cas de ceci dénoncés dans plusieurs territoires de la province orientale, mais rien n'a été fait. Et si aujourd'hui la Cour faisait la sourde oreille à cet appel de la CENI, qu'elle pourrait-elle faire ?» Professeur Ngomakoy.
Allô, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend pas.
Mais voilà. Si la Cour ne donne pas suite à la lettre de la CENI, c'est ce qu'on peut dire. Ce serait, à mon avis, un déni de justice. Parce que c'est l'article 74-15 de la loi qui donne pouvoir à la CENI ainsi qu'à toutes les parties au procès de le faire. Et si la Cour ne répond pas à cette requête-là, comment est-ce qu'on qualifie cela en droit ? C'est un déni de justice. C'est vrai, comme notre auditeur vient de le dire, il y a des cas qui ont été dénoncés, des irrégularités, vraiment des erreurs matérielles. quand vous avez posé la question au collègue tout à l'heure, si ce qu'on entend par erreur matérielle, le collègue a bien répondu. Il suffit de donner un exemple simple. Si la Cour, dans ses calculs, dit que 1 plus 1 égale 1, je sais que cela est valable dans une certaine doctrine religieuse, mais en mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Si la Cour a dit 1 plus 1 égale 1, et qu'on lui fait voir que non, elle s'est trompée, c'est une erreur mathématique, la Cour a l'obligation de rectifier. Et si cette rectification en plus que pour conséquence, le changement dans l'ordre d'arrivée après le scrutin électoral, la Cour en tire également les conséquences pour que dans son arrêt de proclamation des résultats définitifs, elle puisse proclamer le candidat qui a obtenu le nombre mathématique exact de voix des électeurs.
Merci, professeur. Professeur Chibangou, je vous redonne la parole tout à l'heure. Validation et invalidation des mandats des députés par la plénière de l'Assemblée nationale vendredi 4 mai dernier au Palais du Peuple. Il s'agissait de 32 députés dernièrement validés et invalidés par la Cour suprême de justice à l'issue des contentieux électoraux des élections du 28 novembre 2011. Une situation qui n'a pourtant pas manqué de susciter un débat au sein de l'hémicycle. Pour les élus du peuple qui ont été invalidés et certains d'autres, il y a eu des erreurs matérielles dans les arrêts de la Cour suprême de justice qui doivent cependant être corrigées. Reportage Jacques-Yves Molima.
Une motion a même été présentée à la plénière demandant à ce que le mandat des députés déclarés élus par la Cour suprême de justice ne soit pas validé ce jour. L'auteur de la motion, l'élu de Kabongo dans le Katanga, Odette Mwambabanza.
Nous n'allons pas contre ces arrêts, mais néanmoins, tout le monde est unanime que ces arrêts contiennent d'erreurs matérielles. Nous avons voulu tout simplement que ces erreurs matérielles soient corrigées afin que l'Assemblée nationale puisse valider ceux qui seront véritablement élus.
Sa motion a été expressément soutenue par quelques députés qui ont estimé que la plénière devrait prendre un peu de recul avant de statuer en validation de mandat de ces 32 députés. Mais pour les autres, tout en affirmant qu'il existe bien évidemment des erreurs matérielles dans les arrêts de la Cour, ces derniers sont rendus en dernier ressort et sont exécutoires. Ainsi, la motion a été rejetée par la plénière et était excellente. Les 32 nouveaux députés ont vu leur mandat validé. Toutefois, les invalidés ne désarment pas et attendent de poursuivre avec la Cour pour que les erreurs matérielles soient corrigées.
Suivant également ce témoignage d'un député invalidé par la Cour suprême de justice, il était au téléphone de Samuel Kassak.
Georges Kombo Tongaboke, élu la circonscription électorale de Mokoto, province de l'Équateur. En ce qui me concerne, mon dossier, je crois que c'est le plus simple. Le requérant, c'est-à-dire mon accusateur, a établi un rapport circonstanciel, mais un faux. Dans ce rapport, il dit que moi j'avais amené une milice, et j'avais pris des militaires, et qui ont empêché aux citoyennes et citoyens de Mokoto d'élire. Il a estimé que ces citoyens étaient au nombre de plus de 7000. Alors, il a imité la signature de l'administrateur du territoire, il a imité le cachet de Mokoto, et il a imité le sigle du territoire de Mokoto. Quand nous avons vu ce rapport dans notre dossier, nous voulions avoir le cœur net, nous l'avons envoyé à Mokoto, et la réaction de l'administrateur du territoire ne s'est pas fait attendre. Ce dernier a écrit au premier président de la Cour suprême pour dénoncer le faux rapport circonstanciel et a sollicité même du premier président de la Cour suprême de se saisir de ce cas pour sanctionner le faux et usage de faux du chef de mon requérant. Mais voilà, contre toute attente, la Cour s'est toujours appuyée plutôt sur le faux rapport au lieu de considérer le texte officiel de démenti, c'est que le directeur de Mokoto avait réagi.
Professeur Jacques Joly, je rappelle que vous êtes vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Professeur, les mandats de 32 députés ont été validés à l'Assemblée nationale vendredi dernier. Apparemment, la CENI n'a pas été notifiée. Y a-t-il eu vite de procédure de la part de la Cour suprême de justice?
Je voudrais d'abord, avec votre permission, saluer les deux collègues. Je leur remercie pour le lumière qui amène à ces débats. Comme vous l'avez dit, c'est un débat pédagogique. Vous permettrez que parfois nous puissions aller au-delà des impératifs qu'impose nos statuts professionnels. Alors, je voudrais d'abord dire avec le professeur Karachimangou que effectivement, nous nous demandons par quelle magie l'Assemblée nationale s'est saisie, parce que, comme vous l'avez vu dans la loi, les décisions doivent être finies.
Voilà, nous avons perdu le professeur Jacques Joly. La réalisation tente de le retrouver. Professeur Kibangu, vous évoquez déjà cette question. Y a-t-il eu vice-procédure de la part de la Cour suprême de justice?
Oui, mais ça l'est, vous permettez-moi d'être assez dur. Il y a certaines personnes qui cherchent à donner de notre pays l'image d'une république bananière. L'image d'un petit royaume du Moyen-Âge où les gens ne respectent rien du tout, ne respectent pas les lois en vigueur, ne respectent pas la Constitution, ils font n'importe quoi. Les lois sont claires, et ça les ouvre. On n'a pas respecté la procédure. On se demande comment les arrêts de la Cour suprême de justice sont arrivés à l'Assemblée nationale, parce que tout doit passer par la CENI qui doit préparer les dossiers. Si on a validé des nouveaux députés, mais c'est la CENI qui doit apprêter les dossiers des nouveaux députés dont les mandats ont été validés par la Cour suprême et les amener à l'Assemblée nationale pour dire voilà, pour telle circonscription, c'est tel qui était élu, bon, il n'est plus élu, mais là c'est quelqu'un d'autre, voici son dossier. Et on doit faire tout ça dans la sérénité en respectant le temps et la procédure. Mais là, il y a des problèmes qui se posent. On a validé les députés à l'Assemblée nationale, mais entre-temps, on nous dit qu'il y a des erreurs matérielles. La Cour suprême de justice a commis des erreurs matérielles. On est là dans une république bananière. Mais maintenant, pour corriger ces erreurs, il faut introduire de recours. Donc les députés victimes de l'invalidation de leur mandat peuvent introduire de recours pour demander qu'on corrige ces erreurs matérielles. Mais pour le faire, Alain Young, mais il faut que ces députés puissent avoir des dossiers, qu'ils sachent mais comment la Cour suprême elle-même a travaillé pour les invalider, parce que ça ne s'est pas fait de manière contradictoire. Au moment où la Cour suprême a fait son calcul, n'est-ce pas, pour annuler le mandat de tel et de l'autre, mais la Cour était seule. Les autres partis n'étaient pas là. On ne l'a pas fait de manière contradictoire. Mais donc, il faut notifier ces arrêts aux partis concernés, les résultats, que les gens accèdent à leur dossier physique, qu'ils voient comment la Cour suprême a travaillé, de manière à faire le recours en correction des erreurs matérielles, en connaissance de cause, après avoir maîtrisé le dossier. Mais maintenant, on va le faire comment? C'est pas tout le problème, et je comprends le dépit et la frustration des députés dont les mandats ont été invalidés. Je comprends également, malgré les réserves de la CENI, je crois que le collègue Ndioli était déjà lancé à ce moment-là, eh bien, il y a 10 des procédures. Et si ça vient de la Cour suprême de justice, c'est vraiment regrettable.
Professeur Ndioli, est-ce que vous êtes de nouveau en ligne?
Je suis en ligne.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole. Vous vous étonniez de ce que les arrêts de la Cour suprême arrivent à l'Assemblée nationale qui a validé le mandat des 32 députés.
Oui, mais là, il faut qu'on se dise, comme je vous ai dit, et lorsque vous irez à l'électorale, les décisions de la Cour, qu'elles soient en matière de rectification ou qu'elles soient en matière d'annulation partielle ou totale, doivent être communiquées à la CENI. Et c'est à la CENI, n'est-ce pas, de saisir les autres instances publiques, notamment l'Assemblée nationale, en envoyant le dossier. On a validé tous ces députés, mais avec quel dossier? Avec quel dossier? Donc, on n'a tiré aucune leçon de ce qui s'est passé en 2006 avec les 18 députés et où nous sommes allés à l'Union internationale parlementaire où on nous a demandé de revoir un certain nombre de choses. Donc, voilà un peu le souci qu'avait la CENI. Nous n'avons nullement l'intention de remettre la sagesse de la haute cour, mais il est important que la régularité du système électoral soit sauvegardée, système déjà suffisamment écorné.
Alors, professeur Jacques Joly, il y a eu vite de procédure, comment cela peut-il se corriger? Qu'est-ce qui peut se faire maintenant?
Eh bien, moi, à ce stade, je relève tous ces éléments. Je crois que ce n'est pas le lieu ou le moment, mais il faut tout simplement relever ça. Mais au-delà de cela, il faudra que nous puissions chaque fois appliquer le droit. Je sais que notre système est en pleine maturation, mais j'insiste sur la nécessité de prendre acte de la jurisprudence des cas qui sont passés à 2007. Lorsque, sur base de l'article 75, on annule le vote en partie ou en totalité, est-ce que faut-il aller proclamer d'autres personnes ou saisir l'organe chargé d'organiser les élections conformément à l'article 75, qui est clair, qui dit lorsque on annule, il faut, n'est-ce pas, saisir, n'est-ce pas, la décision, il faut saisir la Cour pour qu'on puisse organiser une nouvelle élection. Par ailleurs, lorsqu'on récompte, et le professeur Tillon nous l'a dit, il faut faire un arrêt avant de dire droit, comme on a fait en 2006. On convoque toutes les parties. Lorsque on voit qu'on dit qu'un candidat a eu 476 voix pour une liste de 11 personnes, alors que la personne a eu 4600 voix, il s'est posé un problème de la sincérité et de l'exactitude de l'ensemble du système. Déjà écorné, je l'ai dit.
Professeur Joly, et à votre collègue le professeur Ayo Bangira, élu de Massissi de 2006, qui dit « J'ai vraiment pitié du prof Joly, qui doit toujours défendre l'indéfendable. La Cour suprême a déjà tranché, les députés validés sont déjà dans l'hémicycle et c'est constitutionnel. Il est stipulé qu'après la proclamation provisoire par la CENI, les élus provisoirement entrent en session en attendant la publication définitive des résultats par la Cour suprême. Après la publication des résultats par la Cour suprême, que veut encore la CENI ? Nous, de la circonscription malheureuse de Massissi, nous trouvons que ce sont des démarches inutiles qui risquent de nous préjudicier encore une fois. Qu'est-ce que vous lui répondez brièvement, professeur ?
Ben, c'est peut-être inutile, mais pédagogiquement, ce n'est pas inutile. Et tout ce que nous disons, moi et les autres collègues, c'est tout simplement le respect de la loi, donc le respect de notre système électoral. Et quand il dit que tout est joué, je voudrais lui dire la loi, et l'arrêt des mots de 2006, où la Cour suprême elle-même disait, il est admis, je cite, que le juge ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle, que le juge électoral est juge de l'exactitude et de la sincérité du résultat, et que dans les cas sous examen, la réparation de ces erreurs, en tant que celle-ci porte sur les chiffres, est de nature à restaurer la vérité des autres. Donc, c'est bien gentil d'avoir pitié de moi, et je suis le premier à avoir pitié de moi-même, mais pas pitié du droit, parce que les droits peuvent être violés, mais tout en restant muet, ils parlent.
Merci professeur. Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Vis des procédures de la part de la Cour suprême, l'Assemblée qui valide les députés, nous sommes dans un feuilleton décidément très compliqué.
Oui, je voulais d'abord dire que sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec mes deux collègues. Effectivement, si je pense que sous le contrôle du vice-président de la CENI, si la CENI n'a pas reçu communication des arrêts de la Cour suprême de justice, parce que comme je venais de le dire tout à l'heure, elle est également partie, indépendamment de la question de partie, la loi dit qu'on doit lui communiquer toutes les décisions. C'est donc à la CENI de pouvoir transmettre à l'Assemblée nationale avec le dossier des nouveaux élus proclamés par la Cour suprême de justice, le dit arrêt pour que la Cour, plutôt pour que la Chambre basse, puisse alors exercer ses prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, à savoir la validation des mandats. Qu'est-ce que ça s'est fait? Visiblement, il y a eu vice de procédure, et je ne sais pas pourquoi il y a eu cette précipitation. Mais au-delà de ça, je crois que la question qu'il faut se poser, c'est au niveau de notre système électoral lui-même. Peut-on valider les mandats des députés avant l'arrêt définitif de la Cour suprême de justice? Parce que la Constitution dit que c'est la Cour suprême de justice qui proclame les résultats définitifs, c'est plutôt la loi électorale. La question, à mon avis, réside à ce niveau-là. Je crois qu'il y a des voix qui se lèvent pour dire qu'il faut modifier la Constitution, qui prévoit qu'on puisse directement valider le mandat des députés avant les décisions de la Cour suprême de justice. Je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que les constituants ne s'est pas trompés. Si l'article 114 de la Constitution dit qu'après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, dans les 15 jours qui suivent, les deux chambres se réunissent pour pouvoir, un, valider le mandat des nouveaux élus, deux, adopter les règlements intérieurs, trois, voter les bureaux définitifs, le constituant l'a dit parce que le constituant est parfaitement conscient que les élections peuvent ne pas donner lieu à des contestations. Je suis peut-être dans un monde angélique, mais c'est une hypothèse, elle n'est pas écartée de prime abord. S'il n'y a pas de contestation qui aille jusqu'à la Cour suprême de justice, la Cour suprême de justice ne proclame que les résultats provisoires lui transmis par la CENI, en ce moment-là, ces résultats deviennent définitifs. Il est donc logique dans la pensée du constituant d'avoir institué cette procédure-là, qu'à dater de la publication des résultats provisoires par la CENI, les deux chambres peuvent se réunir dans les 15 jours qui suivent pour pouvoir valider les mandats de nouveaux élus. Maintenant, qu'arrive-t-il en cas de contestation, comme dans le cas présent? Certains déjà été validés par l'Assemblée nationale. Les arrêts de la Cour suprême de justice ne respectent généralement pas le délai, interviennent bien après, et du coup, la Cour proclame d'autres élus. La procédure veut que un, comme je venais de le dire, la Cour suprême de justice puisse notifier sa décision à la CENI, deux, que la CENI transmette l'arrêt de la Cour suprême de justice ou les arrêts de la Cour suprême de justice avec des dossiers individuels des candidats à l'Assemblée nationale, trois, que l'Assemblée nationale, maintenant, qui a le pouvoir de validation, aide et d'invalidation, puisse procéder à la fois à l'invalidation et à la validation des autres candidats.
Alors, professeur, excusez-moi, je vous arrête à ce niveau-là. D'abord, pour signaler qu'il me reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission, c'est-à-dire je vous demanderai à tous des réponses très brèves. Mais, professeur, la procédure telle que vous l'évoquez n'a pas été respectée. Maintenant, que faut-il pour sortir de cette situation? Brièvement, je vous en prie.
Et c'est bien dommage que les émissions comme ça ne durent pas longtemps. À mon avis, bon, il n'est pas trop tard. Si la Cour suprême de justice accepte de rectifier ses erreurs matérielles, l'Assemblée nationale peut tout à fait revenir sur ses décisions, parce que c'est l'Assemblée plénière qui a pris la décision.
Merci.
Moi, il n'y a aucun problème de ce point de vue.
Merci, professeur. Professeur Jacques Joly, il y a Pierre de Bukavacute qui vous qui dit « Pour montrer à la face du monde qu'il n'y a pas eu de véritables élections en RDC, nous vivons une grande contradiction entre la CENI et la Cour suprême de justice. Matembe Rakaïri de Kalino Katanga, le comportement de la CENI et de la Cour suprême de justice risque de décourager le peuple aux prochaines élections. » Très brève réaction, professeur.
Non, je crois que il n'y a pas de chamaillerie ou de chiffonnerie. Il y a tout simplement des échanges entre institutions de la République pour le respect de la loi, pour le respect de notre processus électoral qui est à maturation et qui exige, n'est-ce pas, de la part de nous tous, des voies pédagogiques. Alors, il ne faut pas que les gens puissent se décourager pour cela. Au contraire, nous sommes dans un chemin de construction d'un état de droit. Et je crois que ce qui vient d'arriver entre la Cour suprême, la CENI ou l'Assemblée nationale, eh bien, la lettre de la CENI va justement dans ce sens. Et cette lettre, qu'on peut appeler recours requête, vise justement à restaurer la légalité électorale en demandant à la Cour de voir là où elle doit voir pour rectifier et de rectifier conformément à la loi, qu'elle annule là où il faut annuler en tout et que nous dise qu'est-ce qu'elle a annulé pour que nous puissions organiser les élections dans les 60 jours et de nous notifier, de nous signifier, de nous communiquer conformément à la loi.
Alors,
pour pas que le système électoral soit trafiqué ou piraté pour des intérêts qui ne sont pas les intérêts de la loi.
Merci, professeur. Professeur Kibangu, déjà en guise de conclusion, comment remettre les choses dans l'ordre?
Oui. Je crois qu'il ne faut pas sacrifier les 32 députés qui étaient déjà proclamés élus et dont les mandats ont été invalidés. Il faut le sens de justice et de correction. Je pense qu'il faut que la Cour suprême de justice respecte la loi et puisse d'abord en communiquant ses arrêts à la CENI et en mettant à la disposition du public les dossiers des candidats ou des députés dont les mandats ont été invalidés. Ça, c'est un. De deux, il faut que les personnes lésées qui se sentent lésés, puissent introduire le plus rapidement possible parce qu'il n'y a pas de délai pour introduire un recours en correction d'erreur matérielle. La loi ne prévoit pas de délai. Et donc, il faut qu'ils accèdent à leur dossier, préparent du recours en connaissance des causes pour demander que la Cour suprême de justice corrige des erreurs matérielles de telle sorte que tout cela se passe de manière contradictoire. Mais pour aller plus loin, il y a un auditeur qui a posé une question très importante. Nous avons déjà préparé à ce niveau 4 propositions majeures que nous allons présenter à la société politique et à la société civile. Nous espérons que la société civile a ce soir de voir endosser propositions pour modifier la loi électorale de manière à ce que les prochaines élections provinciales se déroulent de manière correcte et qu'on ne se retrouve pas, qu'on ne puisse pas décourager le public et qu'on ne se retrouve pas dans la situation d'aujourd'hui.
Professeur Ngomanko, juste un mot, je vous en prie pour conclure.
Respect de la loi, respect de la Constitution, que la Cour suprême de justice puisse accepter de rectifier ses erreurs matérielles, qu'elle notifie à la CENI ses décisions, que la CENI le fasse autant à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale puisse corriger les erreurs qu'il a pu commettre pour pouvoir rester tous dans la légalité.
Merci, professeur. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais est terminé pour ce soir. Rediffusion 4h-5h de Kinshasa. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir. Thank you.